Je vous propose de parler des termes du thermalisme et nous sommes aussi en compagnie de Stéphanie Gallop. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directrice des termes, vous allez nous expliquer ce qu'il y a derrière ce mot. D'abord le thermalisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le thermalisme? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition du thermalisme, depuis quand ça existe et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là?
Alors le thermalisme, c'est une activité de bien-être et de santé à travers l'utilisation des eaux minérales naturelles pour traiter et prévenir des affectations. Donc à Saint-Lary, nous avons eu la chance d'avoir un projet qui remonte aux années 1975. Le maire de Saint-Lary, Vincent Mire de l'époque, a racheté des eaux thermales à un village de Tramezaille, à 4 km de Saint-Lary, où c'était des eaux sulfurées qui sortaient entre 15 et 18 degrés. Il avait pour objectif d'amener ces eaux à Saint-Lary pour créer un établissement thermal. Cette création a eu lieu en 1985 et avec une ouverture d'exploitation en 1988.
Elle a quoi de particulier, de bon, cette eau?
C'est de l'eau soufrée. Et cette eau soufrée, elle a un agrément pour tout ce qui est rhumatologie, donc pour tout ce qui est problème arthrose, rhumatisme inflammatoire, arthrite, et également pour tout ce qui est voie respiratoire, donc pour tout ce qui est sinusite, bronchite, asthme. Donc nous avons ces deux affectations au CERM de Saint-Lary actuellement.
Aujourd'hui, quand on parle de thermalisme, on pense tout de suite au bien-être. Mais là, vous nous parlez santé, en fait. C'est du soin.
À la base, c'est du soin. C'est géré par des médecins. Nous avons des médecins de cure, dont les curistes sont là sur 18 jours et ont différentes prescriptions.
Une cure, c'est 18 jours.
Une cure, c'est 18 jours. Pourquoi c'est 18 jours? Parce que c'est pris en charge par la Sécurité sociale ou les caisses. C'est-à-dire un curiste, quand il vient faire la cure chez nous, doit voir son médecin traitant ou médecin rhumatologue ou ceux qui s'occupent des voies respiratoires. Et il a une prescription de cure de 18 jours. Il vient à Saint-Lary, il a des soins pendant 2 heures par jour.
Et le reste du temps, eh bien, il peut profiter de tout ce que le village propose, puisqu'on a bien entendu qu'il y avait des compléments d'offres en tous les cas.
Voilà, le reste du temps, pendant les cures thermales, eh bien, on est associé avec l'Office du tourisme, où il faut les occuper. Ils sont chez nous 2 heures le matin en général, et on doit les occuper l'après-midi. Et alors, il y a plein de choses qui sont mises en place. Hein. Il y a le bal du curiste, par exemple. Il y a tout ce qui est concours de pétanque. Il y a des randonnées avec des guides. Donc, toutes ces prestations nous aident à fidéliser les curistes. Mais on les occupe aussi en interne, où pendant les soins, ils ont des accès gratuits. Et on a une salle de fitness où ils peuvent profiter. On a un espace premium au Sensoria Rio où ils ont accès. Ça veut dire qu'ils ont droit à un jacuzzi supplémentaire, à un hammam, à une salle de chromothérapie.
Donc on dépasse un peu la frontière du soin. Là, on bascule dans le bien-être.
On fait les deux. C'est-à-dire,
donc on vient pour se soigner, mais on est bichonné quand même.
On profite.
Jean-Frédéric.
Oui, non, je voulais aussi rajouter un point qui est important, c'est que la qualité du séjour et le fait de ne pas s'ennuyer dans un lieu où on fait sa cure vient capitaliser les soins que l'on prodigue à l'établissement thermal. Donc il est important finalement qu'on soit dans un parcours de 3 semaines, combiné avec les soins à l'établissement thermal, mais aussi un peu de sport à l'extérieur, de marche, et remettre les gens un petit peu en condition physique.
Vous voulez dire que le thermalisme tout seul, ça ne suffit pas pour soigner la personne?
Non, et c'est aussi ça l'intérêt finalement de fréquenter un établissement thermal, c'est de peut-être de revenir finalement à une pratique un petit peu plus complète pour essayer de préserver un peu mieux son corps. Et encore une fois, si un curiste s'ennuie, les soins seront moins capitalisables, entre guillemets. Donc c'est important d'offrir finalement un séjour complet. Et c'est le cas ici à Saint-Lary avec toutes les activités que citait Stéphanie, sans oublier le côté très culturel avec le cinéma, des expositions, cette maison du patrimoine. on est aussi dans un parcours un peu classique de touriste pour puisque ces gens-là viennent souvent de loin et profitent aussi pour découvrir un large territoire.
Mais à la base, ce sont des personnes qui ont besoin d'un soin, d'être soignées, qui ont des pathologies qui doivent être prises en charge. Vous nous disiez, Stéphanie Gallop, qu'ils viennent pour 3 semaines, 18 jours, c'est remboursé puisqu'ils viennent sur prescription médicale, mais une cure ne suffit pas, ça veut dire qu'ils vont devoir revenir, enfin peut-être qu'une cure suffit d'ailleurs, je ne sais pas, mais s'ils doivent revenir, ça veut dire que tous les ans, eh bien, ils peuvent avoir 18 jours de cure remboursée par la Sécurité sociale. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est important cette question du financement.
Tout à fait. Alors, pour les voies respiratoires, on parle souvent de 3 années consécutives. Vous avez des cures, surtout pour les enfants par exemple, où on vient selon la pathologie, et de faire 3 années consécutives permet de ne plus avoir l'affectation ou du moins de ne plus avoir à utiliser des traitements avec des médicaments sur toute l'année. Les pathologies au niveau de la rhumatologie, nous sommes dans le sens où on soulage également et ça permet de moins prendre aussi tout ce qui est médicamenteux tout au long de l'année. Donc oui, nous avons des curistes fidèles qui reviennent depuis plusieurs années et qui ont des cures remboursées par les caisses. En fait, c'est des demandes de prise en charge où la caisse prend en général 65% et le reste est complément par la mutuelle à 35%.
Donc une clientèle de fidèles qui viennent durant des années et tous les ans. Ça, c'est pour la partie soins, donc vraiment purement thermalisme.
Oui, médical.
Médical. Et après, tout ce que vous avez évoqué, qui est plutôt du bien-être, là, on imagine, ce n'est pas du tout le même profil. Ça veut dire que vous avez deux clientèles qui se croisent, en fait.
Alors, on a deux clientèles qui se croisent. Déjà, on a deux saisons. On a la cure thermale est ouverte du mois d'avril au mois d'octobre. Et on est ouvert sur toute l'année pour la partie bien-être. Cette partie bien-être, elle a été développée par Saint-Lary en 2005, où on a, créé le Sensoria Rio, qui est composé de piscines thermoludiques, où là, c'est des piscines où on a fait le choix de recevoir des familles. Hein. Donc, on prend les enfants à partir de 6 mois. Donc, ça rejoint le label plus de Saint-Lary, le label famille. Et nous pouvons venir nous baigner pour 2 heures de temps où vous avez à l'intérieur tout un espace bien-être avec hammam, sauna, jacuzzi, lit à bulle, avec des bassins intérieurs et des bassins extérieurs.
Combien ça coûte pour une famille, on va dire un couple, 2 ou 3 enfants
La famille,
est-ce que c'est accessible?
Oui, je pense, la famille, c'est à partir de 47 euros pour 2 heures de temps pour 4 personnes. Vous pouvez accéder aux bains qui sont chauffés à 32 degrés à l'intérieur et à 34 degrés à l'extérieur.
Ça fait rêver.
Voilà, c'est quand même de l'eau de source, c'est de l'eau bicarbonatée dans ces espaces-là et ça touche tout public. Et nous avons à côté de ça un spa thermal de bien-être où là on utilise l'eau thermale où on peut faire des soins individuels en cabine comme des bains, des douches, où on fait des massages sous puits thermales. Et également toute une gamme de bien-être, une gamme de massages de détente, de soins visage.
Tout ça marche aujourd'hui, tout ce panel bien-être. Est-ce que les gens, aujourd'hui, concrètement, pour dire les choses simplement, sont prêts à mettre de l'argent dans le bien-être?
Alors, je pense que oui. Je pense qu'on est à la base une station de ski, Saint-Lary. Mais le fait d'avoir développé cette partie thermale et de bien-être à l'époque nous a permis de voir que la clientèle aujourd'hui garde toujours un petit budget pour venir se détendre après une journée de ski. Donc oui, cette partie-là fonctionne. Et l'été, on n'a pas les skieurs, on a les randonneurs qui ont un peu le même état d'esprit et qui aiment bien venir se relaxer après les randos.
Alors c'est aussi un territoire jacquaire, hein, les chemins de Saint-Jacques passent dans ces vallées-là. C'est peut-être après une journée de marche sur les chemins de Saint-Jacques, on peut profiter des thermes.
Oh oui, on y est complètement au milieu, donc on peut.
Jean-Frédéric.
Oui, non, vous parliez de demandes autour du thermalisme et du bien-être, il faut, faut mettre en évidence deux méga tendances quand même qui vont en faveur du thermalisme et du bien-être. Tout d'abord, le vieillissement accéléré de la population. Un chiffre, 25% de la population aura plus de 65 ans dès 2040. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui montre finalement un basculement démographique et qui accroît forcément et mécaniquement cette demande liée à la prévention, à la rééducation, à la qualité de vie, à la santé. Et ces stations thermales ont un cœur de métier et qu'il finalement, il faut qu'on remette aussi un peu l'église au milieu du village. C'est dans ces stations thermales où on sait prendre soin des corps et des personnes. Et enfin, la recherche mondiale autour du bien-être, je le citais tout à l'heure, c'est l'âge d'or pour moi aujourd'hui du tourisme de bien-être. C'est une demande qui est de plus en plus forte. Donc globalement, thermalisme, bien-être, quand on a une eau minérale naturelle, on a de l'avenir devant soi.
Enfin, pour vous, ça va naturellement avec le tourisme aujourd'hui?
Oui, mais tout en ce que disait tout à l'heure Stéphanie, tout en cloisonnant, il y a la cure conventionnée où là, il y a une prise en charge et un parcours du patient.
Le soin.
Le soin, avec une prescription médicale, selon une affection, etc. Donc ça, c'est un parcours de santé. Et après, se développent aussi des cures libres, se développent des centres thermoludiques, des offres de soins liés au bien-être. Mais tout ça, pour moi, est très complémentaire. Et enfin, un dernier chiffre, puisqu'on parlait très récemment de déremboursement.
Oui.
Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, les cures conventionnées pèsent 0,14% des dépenses de santé en France, alors que les stations thermales génèrent un peu plus de 4 milliards de retombées économiques directes, indirectes et induites. Donc, faisons les comptes. Je pense que l'économie française a y gagné en envoyant des gens en cure dans nos 88 stations thermales en France et dans ce département où il y en a beaucoup de stations thermales.
En tous les cas, on parle d'une pratique ancestrale, hein, le thermalisme, on l'a bien compris, c'est pas nouveau. Comment aujourd'hui on compose avec les normes environnementales et les exigences économiques? Est-ce que le thermalisme a bonne presse de ce côté-là? Et qu'est-ce que vous pourriez nous en dire sur ce point-là? L'environnement et l'écologie, est-ce que c'est paradoxal avec le thermalisme ou est-ce que ça va de soi?
C'est un sujet. Quand on voit finalement la raréfaction de l'eau, finalement, au sens large.
Et oui, c'est pour ça.
Et ce qui est important de dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'il y a différentes eaux, en fait. Il y a les eaux de rivière, il y a les eaux qui alimentent les robinets, il y a les eaux minérales qui sont souvent des eaux souterraines. Ce ne sont pas les mêmes nappes. Et aussi vous dire que finalement, le thermalisme puise dans une nappe qui est complètement différente de ce qu'on pourrait appeler l'eau potable, mais renvoie aussi finalement à l'environnement, après avoir utilisé cette eau pour les soins, la renvoie finalement dans l'environnement. Donc voilà, je pense qu'il est important de pas mélanger les eaux, puisque dans certaines régions, il y a des problèmes d'eau. Et voilà,
en tous les cas, c'est une question, un sujet qui vous habite, on imagine, pour vous projeter dans l'avenir et pour continuer à développer le thermalisme ici à Saint-Lary-Soulan.
Tout à fait, c'est des projets qui sont importants, c'est des projets aussi de sécurisation de forage. Par exemple, Saint-Lary, on a la chance d'avoir trois forages où il y a la même qualité d'eau, avec du soufre à l'intérieur. Et on a eu la chance d'avoir un quatrième forage où on a de l'eau bicarbonatée. Ça nous permet de faire fonctionner l'établissement. Pour vous donner une idée, Saint-Lary, on est un petit centre quand même, un moyen centre. On fait 2800 curistes par an. On espère augmenter parce que l'après-Covid a fait quand même un peu de mal et on remonte petit à petit. Et du coup, la mairie a décidé de réagréer un forage, dont le forage bicarbonaté, pour la rhumatologie, pour sécuriser. Donc ce que vous dites, oui, on est tous très vigilants par rapport à ces problèmes-là, et également par rapport à l'environnement. Donc en interne, on a des services techniques qui suivent et qui mettent en place des systèmes de récupération d'énergie, etc., des GTC, Alors la GTC, c'est quoi? C'est la gestion technique centralisée.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Alors, derrière ça, on a une petite usine quand même sous les thermes pour faire fonctionner tous les compresseurs, tout ce qui amène l'eau dans les différents soins. Et il faut quand même économiser de l'énergie. Donc tout est mis en place et tout est fait. On peut tout gérer automatiquement et surtout par rapport au temps, à la chaleur extérieure, etc. Il y a des sondes bien précises un peu partout qui gèrent tout ça.
Donc c'est pas un établissement autonome, mais quand même vous y tendez.
Ouais, on travaille. Là, il y a un projet de récupération des eaux usées chaudes. Voilà, c'est un travail quotidien et puis par rapport aux nouveautés et à suivre de l'installation.
Donc, on a bien raison de dire qu'aujourd'hui, c'est quand même un défi. C'est une question que vous prenez en charge, que vous travaillez déjà, mais ça reste quand même un défi. Jean-Frédéric.
Oui, quelques chiffres, puisqu'on parle de la ressource en eau.
Oui.
C'est important de donner quelques chiffres. Les besoins des cures thermales aujourd'hui en France s'élèvent à 16 millions de mètres cubes. On estime aujourd'hui à 100 milliards de mètres cubes en moyenne les ressources en eau dans le sous-sol métropolitain. Et donc le thermalisme finalement représente 0,05% des prélèvements d'eau souterraine.
Alors vous avez les chiffres en tête et c'est important de les donner. Alors 2800 curistes par an dans l'établissement Valvital, donc les thermes ici à Saint-Nary-Soulan, ça c'est pour les curistes. Mais combien de personnes passent pour tout ce qui est bien-être?
Alors il y a, dans l'année 2025, il y a eu comme 66 000 personnes au niveau de la piscine thermoludique. Et on fait 2800 soins sur toute l'année. Soins, les massages, les soins visage, etc.
Et ça augmente?
Alors ça augmente. Surtout la saison hivernale par rapport, on est relié à la station de ski. Donc s'il y a de la neige sur Saint-Lary, forcément, nous, on a...
Les skieurs viennent, ils sont fatigués, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, et voilà.
Tout est relié.
Tout est relié. Combien de personnes travaillent dans l'établissement Valvital?
Alors, Valvital, l'hiver, on est 29 salariés, et l'été, on peut aller jusqu'à 47 salariés, étant donné...
Donc des soignants, mais pas seulement... Enfin, des soignants pour la partie cure et...
Et toujours les mêmes pour faire fonctionner les autres activités. On a des ménageurs, des esthéticiennes, un infirmier, un kiné, donc il y a plusieurs corps de métier dans l'établissement.
Voilà, et donc à chaque fois qu'une activité naît et se déploie à Saint-Lary, il y a plein de métiers derrière. Merci beaucoup Stéphanie Galop, je rappelle donc que vous êtes la directrice des thermes ici à Saint-Lary-Soulan. On va vous libérer et puis on va marquer une petite pause musicale avant la dernière partie de cette émission tout à fait spéciale. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Saint-Lary-Soulan jusqu'à 14h et en dernière partie d'émission, nous allons parler pastoralisme, agriculture, nous allons parler des vaches limousines, du porc noir de Bigorre, et ça aussi ça fait rêver. À tout de suite.
Accosté au port de Bayonne, entre la Nive et la Dour, dans mon cœur ces mots qui résonnent comme l'union de tous ces hommes. Les embruns de l'océan transportés par le vent s'engouffrent dans les boulevards pour faire danser les foulards. J'ai compris que vivre ici, malgré mes échecs de la vie, ce beau pays qui m'a construit, que tant de monde nous envie, ce besoin de voyager sans pour autant m'attacher. Du jour où je t'ai rencontré, ton regard en moi s'est ancré. Des mots d'ici, plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 Bayonne, mes amours, des mots de tous les jours qui riment avec toujours. Au pied du château de Pau, face à la vallée d'Ossau, assis sur les pavés, boulevard des Pyrénées,
je pouvais partir d'ici, bâtir une autre vie, oublier tout changer, je l'aurais regretté.
De New York à Dubaï, en passant par Miami, Paris est dans la place, la mienne n'est pas dans les palaces. Cette fois-ci c'est gagné, tout l'amour que tu m'as donné m'a enfin poussé à choisir pour le meilleur et pour le pire. Adieu, 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 ce sont des mots d'ici. Plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 Bayonne, mes amours, des mots de tous les jours qui riment avec toujours. Pa 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 p
reviendrai, tu seras là pour me poser, et mon repère, ma liberté, et grâce à toi je survivrai.
Quand le soleil se couche à l'ouest, plus de force pour un seul geste.
Sur cette plage d'Osegor, c'est dans tes bras que je m'endors. Adieu, 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 ce sont des mots d'ici. Plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Amour, 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 baillant de mes amours, des mots de tous les jours qui riment avec toujours. Adieu, 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 ce sont des mots d'ici. Plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Amour, 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 des mots de tous les jours. Amour, 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 qu'on chante avec amour.
Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Frédéric Gontier et Émilie Verdoux de l'Office du tourisme de Saint-Lary qui sont avec nous depuis midi et qui restent avec nous parce qu'en fait ils sont bien sur Radio Présence. On est bien à Saint-Lary et eux sont bien sur Présence. Et pour cette dernière partie d'émission, eh bien, nous avons aussi à nos côtés Patrice Coustalat. Bonjour à vous Patrice.
Bonjour.
Vous êtes éleveur de vaches limousines et de porcs noirs de Bigorre depuis 40 ans ou presque 40 ans.
On va dire 40 ans.
40 ans, 40 ans. Dans cette vallée d'or. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser vous présenter tout simplement. Parlez-nous de vous, Patrice.
Bon, eh bien, en effet, j'ai un parcours un peu atypique puisque mon grand-père faisait mon métier sur ce petit village de Vignac à côté de Saint-Lary. Et mon père a été la génération qui a subi l'exode. Et dans ces vallées, les gens sont partis en ville pour gagner leur vie. Oui. Donc chez moi, ça a sauté une génération. Et mon frère et moi, à l'âge de 13 ans, on ne parlait que de vaches, de brebis et de montagnes. Et donc, nos parents nous ont quand même envoyé un peu à l'école, et à 20 ans, et nous sommes revenus, entre guillemets, revenus parce qu'on ne venait que pour les week-ends quand on était en scolarité, et revenus avec mon frère pour monter cet élevage de vaches limousines et de porcs noirs de Bigorre. Voilà, avant tout par passion.
Par passion, c'est vraiment un métier passion. Qu'est-ce que vous aimez, alors, à la fois dans votre métier, mais dans cette vallée d'or ?
Bon, bien sûr que moi, ce qui m'a ramené dans cette vallée et devenir éleveur, c'est la montagne. La montagne, ça vous prend. Et aujourd'hui, si je suis éleveur, c'est parce que je veux vivre dans ces montagnes. Et donc, mes animaux, c'est mon quotidien, la montagne. Et c'est elle qui m'a ramené dans ces vallées.
Alors, être éleveur en Vallée d'Or aujourd'hui, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, de la crise des agriculteurs. Nous, on n'aime pas trop ce mot-là, la crise des agriculteurs, parce qu'au fond, cette crise des agriculteurs, c'est un petit peu la crise qui touche tout le monde. Vous en pensez quoi ? Et aujourd'hui, pour vous, être éleveur en Vallée d'Or, ça veut dire quoi ?
Alors, j'ose dire qu'en Vallée d'Or, on est un peu privilégié, les éleveurs, par rapport au monde agricole, parce qu'on a deux richesses. La première, c'est nos montagnes. Je ne le répéterai jamais assez. Elles nous donnent beaucoup de choses. Déjà, 7 mois d'herbe gratuite, où, avec nos transhumances, on valorise cette herbe, et quelque part, nos bêtes nous coûtent zéro. Ensuite, notre deuxième richesse, c'est le tourisme. Et ça permet, en étant éleveur, moi, de transformer mes produits et de vendre ma production. Chose qui n'est pas possible pour tout le monde en France. Je comprends très bien le ras-le-bol de mes collègues qui sont dans des systèmes un peu coincés, où on leur fait beaucoup de promesses. Et malgré, vous avez vu, plusieurs manifestations sur plusieurs années, il n'y a pas grand-chose qui change et qui bouge.
Vous vous sentez privilégié ici ?
On est privilégié. Alors, je m'amuse à dire, on n'a que des inconvénients, sauf ces deux richesses. Et l'altitude est un inconvénient, le froid,
il y a plein d'inconvénients. Mais vous aimez ça visiblement, le froid, l'altitude, ça ne vous dérange pas.
Exactement, comme je vous dis, c'est mon pays. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un paysan. Je ne suis pas un agriculteur, je suis un paysan.
Et c'est quoi la différence ?
La différence, c'est que je suis collé à mon pays. Je n'aurais pas fait ce métier ailleurs. Je répète, ces montagnes qui m'ont amené à ce métier. Et je suis avant tout un paysan, plus qu'un agriculteur, quand je me définis.
Vous avez des vaches limousines et des porcs noirs de Bigorre.
Tout à fait.
Parlez-nous de vos bêtes. Vous en avez combien et pourquoi vous avez... Alors, le porc noir de Bigorre, on peut comprendre. Les vaches limousines, pourquoi vous avez choisi ces races-là ? Quels sont les avantages, les atouts, les attraits, les caractéristiques de ces races ?
Tout à fait. Mais pour parler des vaches, vous avez fait allusion au froid dans ces Pyrénées et à ce monde un peu rustique. Et la limousine a cette particularité. On dit que c'est une vache rustique, c'est-à-dire très adaptée au milieu difficile. Alors, elle n'est pas d'ici. Comme son nom l'indique, elle vient de Limoges, mais c'est une race qui vit d'ailleurs à Limoges. Limoges beaucoup en extérieur et très adaptée au milieu difficile, qui est le nôtre. Et elle a un deuxième avantage qui est pour moi énorme, c'est sa facilité de vélage. Et moi, j'ai fait le choix de faire mettre bas mes vaches en altitude, en estive. Et donc, pour moi, c'est un confort de savoir qu'elles vont se débrouiller toutes seules. À ce moment-là, bien sûr qu'il y a de la surveillance, bien sûr qu'il y a des soins, mais je suis un peu tranquille moralement de savoir qu'elles vont se débrouiller toutes seules.
Alors, sur cette question des bêtes en altitude, il y a d'autres questions qui vont arriver après. Mais alors, s'agissant des porcs noirs d'abord, et puis après, on va passer à la question d'altitude. Alors, du côté des porcs, d'abord, vous en avez combien?
Alors, nous ne faisons que l'élevage et la transformation. Nous ne sommes pas naisseurs parce que nous faisons beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, nous avons une filière constituée à peu près de 60 éleveurs en Bigorre. Et nous, la maison Coussalade, puisque je travaille avec mon frère, nous avons fait le choix d'être éleveurs engraisseurs, c'est-à-dire que nous achetons nos porcelets à mes collègues qui sont plus dans le nord du département, hein. Et ensuite on va les, encore une fois, les livrer à la montagne pour 18 mois d'élevage dehors avant, bien
donc
sûr.
Ils arrivent tout petits, et vous les engraissez?
On les engraisse, mais toujours dans la montagne, en maîtrisant les volumes de leur alimentation pour les obliger, parce que c'est quand même des feignants, à aller chercher tout ce qu'il y a de bon dans cette nature.
Mais toujours dans la montagne, mais vous disiez tout à l'heure, c'est 7 mois, les bêtes sont 7 mois dans
la montagne.
Alors
attention, là je parlais des vaches, parlais d'estives et de vaches. Au niveau de l'AOP Port Nord de Bigorre, on ne peut pas dépasser 1000 mètres d'altitude dans notre AOP. Je vous explique pourquoi, c'est que vous remarquerez que dans les Pyrénées, au-delà de 1000 mètres, les bois s'arrêtent.
Oui.
Et on a besoin de bois, parce que ces bois, ils vont nous fabriquer des fruits secs, comme la noisette, la châtaigne,
et
le gland.
Et c'est ça qui fait le bon cochon.
Exactement.
Et voilà.
Exactement. Il ne faut pas oublier de dire qu'il mange beaucoup d'herbes, le porc noir de Bigorre, ce qui va aussi lui donner plein de qualités au niveau des qualités de leur matière grasse. Je m'amuse à dire au public que j'accueille, je fabrique du gras. Ce n'est pas trop à la mode, et pourtant, le gras, c'est le goût. Et comme notre cochon mange de l'herbe, ça fabrique des gras d'extrêmement bonne qualité, que non seulement ça va nous amener du goût sur le produit, ça nuire à la santé humaine.
Ça va plaire à nos auditeurs.
Moi, je connaissais pas cette expression, mais j'en avais une autre. C'est le gras, c'est la vie.
Mais oui, mais moi aussi j'avais ça en tête, mais je n'osais pas le dire. Je suis bien contente que ce soit vous qui disiez. Alors, plus sérieusement, quand même, Patrice Coustalat, là, vous nous parlez de la manière dont se nourrissent les bêtes en montagne. Elles l'entretiennent, la montagne. C'est ça ce qu'on appelle le pastoralisme, c'est que les bêtes, elles sont en montagne et que c'est bien pour les bêtes, c'est bien pour la montagne.
Ah, ça, je ne le dirai jamais assez. J'accueille beaucoup d'enfants, soit avec des parents qui viennent me voir, soit avec des classes scolaires. Et pour essayer de leur expliquer les choses, je leur dis, mes animaux, ce sont avant tout des tondeuses à gazon. Et à ce public d'hiver, où on a la chance d'avoir un vrai hiver à Saint-Lary en ce moment, on peut leur dire que s'ils ont la chance de skier, c'est encore une fois grâce à nos tondeuses à gazon qui entretiennent toutes ces estives l'été. Tous ces petits chemins de montagne, de randonnée qui vont faire l'activité principale de Saint-Lary cet été, c'est encore une fois nos animaux qui ont façonné cette montagne. Ça dure depuis des millénaires. Il est capital qu'on arrive à maintenir un tissu agricole dans ces vallées. On ne les remplacera pas, nos animaux, par l'humain. S'il y a des animaux, c'est parce qu'il y a des femmes. Je dis des femmes parce qu'elles font un très bon boulot maintenant dans les Pyrénées. Et des hommes qui par vocation et par leur passion, ont ces troupeaux. Et c'est capital pour l'entretien de ces montagnes.
Le pastoralisme, c'est un sujet dont on parle facilement dans nos vallées, mais peut-être qu'on ne connaît pas très bien. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que le pastoralisme est menacé, notamment par les grands prédateurs, ou est-ce que vous regrettez peut-être qu'il ne soit pas assez ou mal connu?
Alors, de là à menacer le pastoralisme, je mentirais parce qu'on est vraiment accrochés à ces montagnes et quoi qu'il arrive, on va se battre.
De toute façon, vous ne pourriez pas travailler autrement.
On ne pourrait pas travailler autrement économiquement, en effet. Si nos montagnes ne nous donnaient pas cette richesse, il serait impossible de faire de l'élevage au fond de cette vallée qui est très étroite et qui nous donne très peu d'hectares pour utiliser. Donc l'estive est capitale dans notre métier. Alors, c'est vrai que vous nous entendez souvent râler. Parce qu'il y a des gens qui pensent un peu pour nous, et notamment nos politiques, et qui pensent connaître ces montagnes, et qui nous obligent un peu, sans nous demander notre avis, en nous imposant la présence de ce nounours. Je m'amuse à dire le nounours, parce qu'on pourrait penser que cet animal, et Dieu sait qu'il est beau et emblématique dans les Pyrénées, mais j'avoue qu'il va nous compliquer la tâche. Déjà que la tâche, elle n'est pas facile. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas bien compte. On n'a rien contre l'ours, mais au niveau du travail, on a un travail qui est dur. Et on nous rajoute des contraintes.
Pour vous, concrètement, au quotidien, ça change quoi? Enfin, est-ce que vous avez dû adapter votre manière de travailler, votre manière de pratiquer ce pastoralisme qui est une pratique tout à fait naturelle dans votre métier d'éleveur? Est-ce que vous avez dû changer des choses? Est-ce que vous avez déjà eu des bêtes mangées par l'ours ou par le loup?
Je ne sais pas. Alors, moi, il se trouve que je suis éleveur de bovins. Et j'ai une forte pensée pour mes collègues qui sont éleveurs d'ovins. Parce que le nounours, il est malin. Il va s'attaquer toujours au plus faible. Et une vache, ça fait quand même 800 kilos et ça a des langues cornes. Et elle pourrait se défendre. Et en effet, je dois avouer que moi, je ne suis pas trop embêté, mais mes collègues ont bien sûr des prédations. Ça, c'est la première chose. Mais ça, tout le monde était au courant qu'on a des animaux tués. Mais ce qu'on oublie, c'est le travail que ça va générer derrière.
Et la ça présence veut dire pas plus de surveillance, c'est
exactement,
ça
la présence d'un ours sur une estive va stresser les animaux. Et nous avons les brebis fonctionnent en troupeau. Et ne serait-ce qu'un passage d'un ours sur l'estive va diviser ces troupeaux, va augmenter la surveillance, les temps de marche des bergers, hein, et va provoquer du stress chez les animaux. Et vous savez que dès qu'il y a stress, au niveau hormonal, on va avoir des bêtes qui ne vont plus reproduire et avec des conséquences directes sur l'économie.
Ça veut dire plus de surveillance, ça veut dire plus de bergers, plus de moyens aussi logistiques à déployer?
Alors, des moyens, il faut que je sois honnête, le programme ours nous aide financièrement. Mais encore une fois, les gens
C'est quoi le programme
ours? Le programme ours, il faut comprendre que comme on nous rajoute des contraintes dans les Pyrénées, on nous subventionne, exactement, un peu pour nous faire taire, je dois l'avouer. On nous aide financièrement en termes de subventions pour les salaires des gardiens de vachers et de bergers en estive, dans l'aménagement des cabanes, dans les clôtures, on est aidé financièrement. Mais ce qu'ils n'ont pas bien compris dans les Pyrénées, c'est qu'on est éleveur de brebis dites allaitantes. Ça veut dire qu'on ne laiterait pas. Et si vous venez avec moi dans ces estives, vous allez voir qu'elles sont très abruptes et que les brebis, on ne les ramasse pas le soir. C'est-à-dire qu'elles sont livrées à elles-mêmes. Alors, on nous fournit des filets pour les cantonner, pour les protéger de l'ours, mais il est impossible et inenvisageable de les regrouper tous les soirs pour les clôturer. Donc, on est un peu désarmé et on ne peut que constater les dégâts. Je dois vous avouer que moralement, le moral de certains de mes collègues éleveurs de brebis, ça pèse énormément, plus que financièrement.
Vous en avez vu qui craque, qui change de profession? Est-ce que vous vous êtes dit parfois, même si vous aimez votre métier passionnément et la montagne en particulier, est-ce que des fois vous vous êtes dit, bon, à quoi bon, je laisse tomber, j'arrête?
Alors moi, je ne suis pas là et je suis un peu accroché à tout ça. Mais en effet, moralement, j'ai parlé de moralement parce que j'ai rencontré des gens, et Dieu sait que c'était des gens très durs dans leur métier et tout, qui vraiment moralement étaient un peu à bout ces derniers temps, quoi. Si vous voulez, c'est un peu la goutte qui vient déborder le vase. Le reste, vous l'avez entendu, on manifeste, on est mécontent sur plein de choses. Oui. Et là encore, on nous rajoute quelque chose. Même si je dois avouer que l'ours est un animal emblématique et extraordinaire. On parle de biodiversité, je suis le premier, je pense, être un grand écologiste. Mais quand même, je suis pas sûr que
C'est intéressant, pardon ce que vous dites, je vous coupe, parce que vous êtes le premier à être un grand écologiste, dites-vous. Et souvent on dit, les agriculteurs et l'écologie, ça fait deux, ils ne comprennent pas, ou l'écologie ne comprend pas les agriculteurs. Souvent on oppose ces deux mondes. Et vous êtes les deux en même temps.
Oui, alors je vais mettre les choses en place. Je suis un grand écologiste, j'ai été un chasseur passionné, pour vous dire que ce n'est pas incompatible. Et en effet, je suis pour la biodiversité. Maintenant, je vais vous mettre à l'aise et je vais peut-être vous déranger sur certains points. Quand je vois ce que sont devenues nos montagnes, et on en avait besoin. Vous avez, je sais, avant mon arrivée, parlé de stations de ski. Venez avec moi quand même voir des bulldozers au milieu de nos montagnes pour agrandir les pistes de ski. Et vous pensez qu'on pourrait avoir encore la présence de ces animaux sauvages dans les Pyrénées? Ça, c'est pas compatible. L'humain, il est un peu terrible, un peu fou. Il veut tout. On a fait le choix du ski, je suis le premier à dire, que c'est capital pour ces vallées. Maintenant, on les abîme un peu. On va encore accueillir le Tour de France. Je serai le premier à les applaudir. Mais ça, c'est complètement incompatible avec l'écologie directe et la présence de l'ours dans les Pyrénées. À un moment donné, il faut faire des choix. Et l'humain, il est un peu terrible. Il n'est pas capable d'en faire.
J'aime bien votre franc-parler, Patrice. Alors, en préparant cet entretien, vous m'avez dit aussi que vous étiez pluri-emploi. Alors, on a beaucoup parlé des agriculteurs qui ont plusieurs emplois. Et vous, précisément, vous profitez quand même du tourisme. Vous êtes éleveur, mais vous profitez aussi du tourisme pour vivre, tout simplement. Donc, on entend tout ce que vous venez de nous dire, mais ces touristes, ils sont nécessaires aujourd'hui pour que vous puissiez vivre de votre métier.
C'est évident. C'est évident que sans eux, je vous l'ai dit, on a deux richesses, la montagne et le tourisme.
Mmh. Ça veut dire que vous les accueillez, vous leur parlez de votre métier.
Voilà. Moi j'ai fait le choix il y a 40 ans. Je ne vous cache pas qu'il y a 40 ans, mes collègues paysans disaient... Ces touristes, excusez-moi du mot, mais ils nous emmerdent. Hein. Ils viennent avec leur parapente se poser dans nos maïs. C'est à cause d'eux qu'on a des bulldozers qui façonnent nos montagnes pour l'hiver. Ils vont avec leur VTT nous casser des clôtures. Si on voit que ce côté-là, en effet, c'est compliqué. Et j'ai fait le choix, moi, de dire, on va les accueillir et on va leur expliquer les choses. Parce que ce sont des gens sympas, comme vous et moi, qui ce n'est que de la méconnaissance. Et ça fait 40 ans que j'ai ouvert mes portes à la ferme en leur disant, venez avec moi en estive voir comment se passe notre travail. Ce qui me permet aussi, je ne vous cache pas, de parler de nos produits, de leur vendre ensuite.
Et ça marche.
Ça marche extrêmement bien.
Cette approche pédagogique, ils sont réceptifs d'abord. Est-ce qu'ils sont curieux?
Extrêmement.
Quelles questions ils vous posent?
Alors, elles sont très variées. Mon public est très varié.
C'est-à-dire?
Ben, je peux aller de la classe scolaire à dans une de mes balades à un ministre de l'Agriculture en 40 ans. Donc, le discours est forcément adapté aux questions que l'on me pose. Moi, mon but, c'est de faire passer des messages. Alors, bien sûr que quand il y a un groupe, je parle aux enfants et les parents l'entendent quand même, le message. Et ensuite, je suis très ouvert à toutes les questions qui se posent sans aucun tabou. Vous l'avez dit, j'ai un franc-parler, je m'amuse à dire, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Vous me posez une question, je vous donne mon avis, vous en ferez ce que vous voudrez.
Jean-Frédéric, vous voulez réagir à tout ce que vous entendez?
Oui, non, j'aime beaucoup les propos de Patrice Coustalat. Ce que j'ai tendance, moi, à penser, c'est que dans les zones rurales et les zones de montagne, pour le coup, agriculture et tourisme, c'est vraiment une alliance stratégique. Et nous, Office de Tourisme, qui sommes un peu les mises, on met en scène finalement nos destinations, on a besoin de l'agriculture et on a besoin de raconter des histoires. Et l'agriculture nous permet d'en raconter à travers une production, des produits, un art de vivre, un accent, une atmosphère. Enfin bref, je pense que c'est tout ça l'enjeu. Donc agriculture, tourisme, c'est une alliance vraiment stratégique et c'est comme ça que je conçois finalement notre métier d'office de tourisme.
Ça fait du bien d'entendre parler d'agriculture aussi positivement aujourd'hui à Saint-Lary-Soulan, mais quand même, Patrice Coustalat, je ne peux pas ne pas vous poser cette question, ou du moins ne pas évoquer avec vous les semaines qui viennent de se passer, notamment le mois de décembre 2025, où les agriculteurs manifestant leur colère, et vous l'avez dit, ils ont eu raison de le faire, c'est vous qui l'avez dit, ont décidé de bloquer l'accès aux stations, notamment cette vallée d'Or, en bloquant quelques jours avant les vacances de Noël, l'accès à cette vallée. Vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur, vous êtes paysan, mais vous aimez aussi cette vallée et vous reconnaissez qu'on a besoin des touristes. Alors comment vous avez vécu cette période-là? Qu'est-ce que vous en avez pensé? En gros, est-ce que vous pouvez choisir un camp?
Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit à mes collègues. On a eu la chance d'avoir l'opinion publique avec nous en France, et c'est ce qui nous a porté énormément. Nos paroles...
Avec casquette paysan ou casquette tourisme Vallée d'Or?
Non, attendez, là je parle de la France entière, où l'opinion publique était avec nous. Et ça, j'ai dit, alors pour revenir à la Vallée d'Or, à mes collègues, attention, on doit sensibiliser les gens. Ils ont 8 jours de vacances par an, ils viennent dans notre vallée, il n'est pas question de les bloquer complètement. Les ralentir, leur expliquer, discuter avec eux, j'étais absolument d'accord, mais surtout pas bloquer. Parce que nos vallées ont besoin d'économie, les paysans de la vallée vivent par les stations, puisque la plupart de mes collègues sont dameurs, moniteurs de ski, oui. Il n'était pas question de bloquer ces vallées. Sensibiliser les gens, c'était capital. Encore une fois, on a eu des réactions très positives de ces gens, même ceux qui venaient en vacances. À un moment donné, ça a failli déraper, avec des blocages totaux, et j'étais absolument contre par rapport à ça. Voilà.
Vous êtes allé
Alors, on y est allé. Je ne vous cache pas que c'est plus mon collègue qui est beaucoup plus jeune que moi, parce que quand, les animaux, vous le savez, hein, c'est un travail au quotidien. Mmh. Hein, et comme on est deux sur la ferme, eh bien, c'est le plus jeune qui est parti manifester. Voilà. Mais en effet, on a dit notre mécontentement. Hein, notre mécontentement, il est là. Et pour l'instant, il n'est pas résolu.
Hein, et depuis, l'accord Mercosur a été signé.
Le Mercosur, c'est difficile à expliquer aux gens. Hein, je m'amuse à dire, moi, c'est comme un match de rugby où les deux équipes n'ont pas les mêmes règles. Mmh. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va donner. Et c'est pour ça qu'on est en colère. Hein. C'est-à-dire que nous, ça fait 30 ans qu'on nous parle de bien-être des animaux dans nos étables. On s'est mis aux normes, on a fait des choses magnifiques. Ça fait 30 ans qu'on nous parle de sécurité alimentaire, avec la traçabilité. On s'est mis aux normes, on a fait des choses.
Et vous avez eu raison de le faire.
Exactement. Et aujourd'hui, on nous laisse rentrer des produits qui ne sont pas sujets à ces normes qu'on nous a obligés. Comprenez notre mécontentement. Ce qui veut dire que notre produit, il a un coût forcément supérieur à ces produits concurrents.
Donc, il n'a pas la même qualité non plus.
Alors, non seulement il n'a pas la même qualité, et il a un coût où nous, on ne pourra pas se mettre à niveau. Quoi. Donc, vous comprenez notre mécontentement. C'est au consommateur à bien comprendre ça. Il est sensible, mais il est capital qu'ils comprennent que sanitairement, il y a des choses qui ne sont pas normales.
Donc chaque touriste est un consommateur auquel vous pouvez expliquer cette réalité.
Mais bien sûr. Et en plus, en venant en vacances, il aura une sensibilité qu'il n'aura pas quand il aura la tête dans le guidon, en ville, dans son travail. Et c'est là que les messages vont passer.
J'ai une dernière question pour vous, Patrice Coustalade. Ce métier passion, est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à des jeunes de se lancer, de le faire? On a parfois et on donne parfois sur notre antenne la parole à des jeunes qui sont en lycée agricole par exemple, qui sont passionnés, qui ont aussi leur lot d'appréhension, surtout quand ils sont enfants d'agriculteurs ou de paysans, pour reprendre le mot qui vous est cher. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous diriez à un jeune, vas-y, ça vaut le coup quand même?
Bien sûr que je le dirais à 100%. Par contre, je vais le mettre en garde sur une chose, formation. C'est-à-dire que plus on va, plus notre métier est compliqué. Donc plus il va falloir être doué, plus il va falloir être formé, plus il va falloir être polyvalent. Et donc ça passe par la formation.
La passion, ça suffit pas?
La passion, elle est, il faut qu'elle soit là.
Ouais.
Ouais, sans passion, on ne peut pas envisager ce métier-là. Il faut qu'elle soit là aussi à 100%, surtout quand on a 20 ans, parce qu'elle peut des fois être un peu abîmée, la passion, à certains moments. Mais ensuite, il faut vraiment se former un maximum. Et bien sûr que je vais les motiver à faire le plus beau métier du monde. Hein.
Voilà, ils peuvent venir ici en Vallée d'Or, à Vignac précisément, pour vous rencontrer, Patrice Coustalade, vous qui êtes éleveur de vaches limousines et de porcs noirs de Bigorre. Et on voit que vous, avec votre franc-parler, vous pouvez répondre à toutes les questions. Merci beaucoup partager avec les auditeurs de Radio Présence votre vie de paysan ici en Vallée d'Or. On va conclure cette émission, déjà 2 heures de plateau en direct depuis Saint-Lary-Soulan, mais en fait ça passe très vite. Évidemment. Alors pour conclure, on va quand même donner envie à nos auditeurs, mais je pense que c'est déjà fait, de venir ici dans cette Vallée d'Or à Saint-Lary-Soulan. Il y a un point qu'on a un peu évoqué, mais vraiment on va terminer là-dessus, c'est l'événementiel. Vous l'avez dit plusieurs fois, Jean-Frédéric, il y a beaucoup d'événements, il y a une offre culturelle qui rayonne à Saint-Lary, et il y a quelques rendez-vous à venir, notamment au printemps, je crois, Émilie, qu'il faut pas louper, qu'il faut noter tout de suite dans son calepin, dans son agenda.
Oui, je vais vous la donner tout de suite. C'est donc du 8 au 15 mars et il s'agit du Printemps des Poètes. Et cette année, Saint-Lary évoquera avec douceur et émotion le parcours de cette grande dame qui est Barbara, dame de la chanson française et de la délicatesse de l'ensemble de ses œuvres. On célébrera Barbara autour de conférences, de poésie, d'ateliers. Voilà, donc je vous invite à venir à notre rencontre du 8 au 15 mars à Saint-Lary.
Et puis il y a aussi, on marche, on court beaucoup à Saint-Lary au mois de mai. Il n'y a pas un événement exceptionnel, une espèce de trail ou des courses? Je crois qu'on peut faire beaucoup de sport.
On marche, on court, on réfléchit, on s'amuse.
On réfléchit, oui.
Et oui, moi je voulais mettre en avant finalement un festival qui est né à Saint-Lary, qui s'appelle Du Flocon à la Vague. Et en fait, c'est un festival qui vient clôturer la saison d'hiver et qui a pour but de faire un lien entre montagne et océan, donc d'où le titre du Flocon à la Vague. Donc ça va se dérouler cette année du 3 au 6 avril. Et il y en a pour tous les goûts. À la fois, c'est un moment de sensibilisation autour des questions d'eau, et on a parlé tout à l'heure de thermalisme. Il y aura également un défi sportif avec un ultra bike reliant Saint-Lary-Biarritz, retour Saint-Lary. Il y aura également des conférences, des moments aussi un petit peu festifs, familiaux. Enfin bref, je donne rendez-vous aux auditeurs à Saint-Lary du 3 au 6 avril. Et enfin, j'oubliais un grand concert le samedi 4 avec Synapson dans le gymnase de Saint-Lary. Synapson, très connu, je pense, de nos auditeurs. Anne-Rose, si je peux juste me permettre,
vous avez
Patrice
encore...
Coustalat, parler de produits et moi d'alliance avec le tourisme. Un métier aussi qui est essentiel dans nos destinations, c'est le métier de restaurateur. Ce métier qui vient finalement mettre en avant le savoir-faire de ces paysans, au bon sens du terme, dans une assiette pour essayer de faire ressentir finalement une compétence. Et pour moi, le restaurateur aussi est un acteur clé quand on parle d'agriculture, de tourisme. Le restaurateur est un acteur clé.
Patrice, puisque vous êtes resté autour de ce plateau et qu'il nous reste 2 minutes, vous vous sentez vraiment dans la en collaboration étroite avec les restaurateurs et les autres acteurs locaux?
En effet, on a plusieurs restaurants qui jouent le jeu avec notre produit, le Port d'Or de Bigorre, hein, qui est un produit exceptionnel, et en effet, ils le valorisent extrêmement bien. Nous, on fait notre partie en s'appliquant sur l'élevage, et eux finissent de le valoriser avec leur savoir-faire.
Voilà, eh bien, merci. Merci beaucoup à vous, Frédéric, Jean-Frédéric Gauthier, Émilie Verdoux, Patrice Coustalat, et puis tous les invités qui se sont relayés autour de ce plateau très spécial que nous avons concocté pour nos auditeurs de Radio Présence. Nous étions en direct de la Maison du Patrimoine à Saint-Lary-Soulan. Peut-être qu'on peut indiquer l'adresse d'un site internet pour que les auditeurs puissent aller voir les bons plans, le ski, les randos et tout ce qu'il y a à faire à Saint-Lary.
Oui, et vous pouvez nous retrouver sur www.saintlary.com.